Je suis honoré de pouvoir partager avec vous autour de la parole de Dieu, mais aussi autour de cette thématique qui est proposée cette année. Je sais que j'ai été béni de lire certains passages, de méditer sur ce sujet, et nous allons voir ensemble quelques principes qui, il me semble, sont fondamentaux pour expérimenter cette victoire sur le monde que Jésus nous propose. C'est vrai que la vie chrétienne consiste à accepter Christ comme son sauveur et d'espérer soit son retour, l'enlèvement en ce qui nous concerne, soit en quittant ce corps, se retrouver, comme le dit Paul, dans la présence du Seigneur. Mais en attendant, eh bien, nous existons sur cette terre. J'allais dire nous vivons sur cette terre, mais évidemment la question que l'on doit se poser, c'est de savoir quelle sorte de vie nous expérimentons sur cette terre. En réalité, nous le savons, si la vie chrétienne que nous traversons et que nous expérimentons ici-bas n'est pas animée par la puissance de l'Esprit, en réalité, nous ne vivons pas. Nous existons, nous manifestons une vie naturelle, mais nous ne participons pas à la vie éternelle. Je me souviens, c'était au début de ma conversion, je crois que c'était à la première conférence où j'ai assisté à Baltimore, c'était en 1988, dans un campus d'étudiants, dans un gymnase. Pasteur Stevens avait prêché un message sur la vie éternelle opposée à la vie immortelle. Et je trouve que la façon dont il a abordé cette thématique est très intéressante, parce que même dans les livres de théologie, on ne trouve pas cette description qui est faite entre, et la différence qui est faite entre la vie ici-bas et la vie d'en haut, je dirais. Lorsque nous venons à l'existence, nous avons une vie, nous recevons une vie, et cette vie est une vie immortelle. Immortelle dans le sens où si le corps peut dépérir jusqu'à s'éteindre, en réalité, sauvé ou pas, nous le savons, notre âme dure éternellement. Donc à partir du moment où un fœtus reçoit la vie, où un bébé commence à vivre sur cette terre après sa naissance, il est animé par une vie immortelle, dans le sens où cette vie a eu un début, mais elle n'aura pas de fin. La question est de savoir où se situera la fin, quel endroit, dans quelle sphère. Et nous savons que Jésus nous a proposé la vie éternelle, une vie qui, elle aussi, n'aura pas de fin. Mais pourtant, il y a une différence entre la vie mortelle et la vie éternelle. Quelle est-elle? Cette différence se situe au niveau de la nature de cette vie, à savoir que celui qui est né dans la chair, ce qui est né de la chair est chair, celui qui est né de Dieu a reçu la vie de Dieu, c'est la vie de l'Esprit. Et cette différence tient, et c'est pas simplement un principe théologique, une théorie, une information, c'est aussi visible et expérimenté dans notre quotidien, même si on n'a peut-être pas eu des définitions précises sur ce qui se passe dans notre vie et ce qu'est la vie chrétienne. Mais la vie mortelle a cette particularité, c'est que elle a un début, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un début où il n'y a pratiquement rien dans cette vie, aucune information, pas de savoir, pas d'expérience. Et donc, la vie mortelle, se croit, grandit en fonction de l'expérience que nous traversons. Ce qui fait que quelqu'un qui a, mettons, 50 ans, a une vie mortelle avec plus d'expérience, pas forcément de la sagesse, mais en tout cas de l'expérience. Et cette vie mortelle durera pour l'éternité. C'est-à-dire que ça soit en enfer ou au paradis, l'âme va expérimenter des choses. Et donc au début il n'y a rien, et puis on vient à l'existence, et là on commence à grandir, à croître. La vie éternelle, elle, est toute différente. Elle est à la fois, en ce qui nous concerne, semblable à la vie mortelle, c'est-à-dire que lorsque nous nous sommes convertis, par exemple, pour ma part c'était en 1987, il y a eu un début. Je ne connaissais rien avec mon âme, mon intelligence, mes émotions, j'avais pratiquement pas d'expérience de la vie chrétienne au départ, et avec le temps, nous croissons, nous grandissons en Christ. Donc dans un sens, la vie éternelle ressemble aussi à la vie immortelle, à ceci près que La vie éternelle, quand nous vivons dans la plénitude de l'esprit, je dirais, se substitue à nos faiblesses, compense nos faiblesses, complète nos faiblesses. Je m'explique. Lorsque Paul dit, par exemple, plusieurs fois, je pense à l'Épître aux Philippiens, mais aussi ailleurs, il nous parle des tribulations, des difficultés à vivre. Et nous sommes, malgré les tribulations, malgré aussi notre manque de connaissances, par exemple, admettons que nous soyons l'objet d'un combat spirituel, nous ne savons pas exactement ce qui est en train de se passer. Pensons à Job et tout ce qu'il a traversé. Il n'avait pas idée qu'en réalité, c'est au ciel que le combat a débuté. C'est pas dans sa propre vie ni sur la terre. Et donc, nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas de quoi sera fait demain. Nous ne savons pas comment Dieu va pouvoir manifester sa fidélité, comment il va répondre à nos prières. Donc, en ce sens, que ça soit la vie immortelle, celle de l'âme, mais la vie spirituelle, celle de l'esprit, donc la vie éternelle, dans les deux cas, dans notre expérience, nous sommes limités, nous ne sommes pas Dieu. Nous avons une relation avec Dieu, mais nous ne sommes pas Dieu. En revanche, Dieu, lui, étant Dieu, il est, on le sait, la vie éternelle même, il est la personne même de la vie éternelle. Lorsque nous recevons la vie éternelle, nous ne recevons pas un concept ou, je dirais, une puissance ou même une vie, nous recevons une personne. Et donc, Jésus-Christ, qui est la vie éternelle, par lui, nous avons accès avec Dieu, et donc par lui, nous avons accès à cette personne qui peut tout, en dehors du fait qu'elle ne peut pas pécher, bien entendu, elle peut tout en fonction de ses attributs, elle sait tout d'avance, et parce qu'elle peut tout, elle est omnipotente, omniprésente et omnisciente, cette vie éternelle, Dieu lui-même, n'est pas inquiet. C'est-à-dire que Dieu sait de toute éternité comment les choses se sont passées, comment les choses se passent et comment les choses se passeront. Ce qui fait qu'au ciel, Dieu règne, mais c'est un règne sans inquiétude, c'est un règne de la part d'une personne qui a toute autorité et qui accomplit un plan dans le temps que nous découvrons. Ce qui fait que Paul encourage les chrétiens à avoir confiance en Dieu, en cette vie éternelle, et cette communion que nous pouvons avoir avec la vie éternelle fait que nous aurons une paix, une quiétude, une tranquillité qui surpasse toute connaissance. Ce qui fait que je peux avoir la connaissance de certains faits, je peux avoir même la connaissance des Écritures, la connaissance de la vie chrétienne en fonction de la croissance qui est la mienne, mais je ne sais pas tout, et à cause de ce fait que je ne sais pas tout, je peux m'inquiéter. Mais si je suis dans la présence, en communion avec celui qui sait tout et qui lui est en paix, ce n'est pas ma paix que je vais expérimenter, c'est la paix de Dieu qui va surpasser la connaissance que j'ai des faits, la connaissance que j'ai de moi-même, la connaissance que j'ai des autres. Par exemple, je prends un exemple simple, commun à tous, pour la plupart d'entre nous. Nous sommes, alors que nous nous marions, nous faisons des vœux et nous savons que la volonté de Dieu, c'est de rester unis ensemble, d'être une seule chair, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ensuite, nous sommes libres de ces vœux, de ce mariage. Mais si on y réfléchit bien, je dirais qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, mais comment pouvons-nous être sûrs que notre mariage va réussir? Comment pouvons-nous être sûrs que la personne avec qui je m'engage va être fidèle, et je ne parle pas simplement de la fidélité sexuelle, mais je parle fidélité dans les détails de la vie. Comment être sûr que nous allons vivre cette unité pendant 5, 10, 20, 30, 40, 50 ans pour certains? Et comment être sûr aussi que nous allons être fidèles? Comment être sûr que nous allons honorer ces engagements? Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'on ne maîtrise pas l'avenir non plus. On le sait, ça peut arriver, mais moi, j'ai connu un couple à qui c'est réellement arrivé, où ils se sont mariés, et quelques semaines plus tard, l'un des deux a eu un accident de voiture et s'est retrouvé infirme, paralysé. Et donc, ça a changé complètement les plans de ce couple. Et on peut imaginer que celui qui reste valide peut se dire, mais finalement, j'avais pas prévu ça, moi, c'était pas dans mes plans. Et on connaît, là, ça n'a pas été le cas, mais on connaît des histoires où celui qui est valide, même s'il va faire peut-être des efforts au début, mais à un moment donné, va quitter la personne infirme, tout simplement parce que elle ne supporte pas cette vie qui n'était pas prévue au départ. Donc en réalité, on ne sait pas, quand on va se marier, exactement ce qui va se passer. Ça peut être la même chose au niveau des finances, du travail, est-ce que j'aurai un emploi, est-ce que celui avec qui je me marie sera un bon père ou une bonne mère. Donc il y a plein d'interrogations. Mais en tant que croyant, parce que nous avons été équipés dans la parole, et donc nous connaissons les critères qui prévalent pour choisir un partenaire et rentrer dans cette nouvelle dimension de l'existence qu'est le mariage, et parce que nous savons aussi que Dieu est fidèle, il va nous accompagner, nous avons la paix de Dieu, c'est-à-dire que nous n'avons pas une assurance en nous-mêmes, nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et nous ne savons pas si nous-mêmes nous serons les mêmes aujourd'hui que nous serons demain. Et c'est pareil s'agissant de notre vis-à-vis. Mais nous croyons en Dieu, nous ne croyons pas en nous dans le mariage, nous croyons en Dieu. Et c'est cette paix qui surpasse toute connaissance, c'est-à-dire que Dieu connaît la fin de notre mariage. Dieu connaît les plans qu'il a pour nous. Dieu sait que nous voulons, Dieu veut que nous avancions spirituellement dans la piété. Donc il fera tout pour nous garder, et après à nous évidemment de nous saisir par la foi de ce qui nous sera proposé au fur et à mesure de notre existence. Et donc c'est possible, pourquoi ? Parce que la vie éternelle ne change pas. C'est-à-dire que la vie éternelle ne change pas en fonction des situations, des circonstances. C'est Dieu lui-même. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu n'était pas inquiet hier, il n'est pas inquiet aujourd'hui et il ne sera pas inquiet demain. Dieu est calme, il est posé, il est conscient de tout ce que nous traversons. Ce qui fait que cette vie éternelle avec laquelle nous sommes en communion nous permet de traverser les difficultés de la vie. Et nous allons le voir ensemble durant les messages que je vais vous proposer, que ce que Jésus est en train de dire là est à ce niveau, c'est-à-dire qu'il est en train de leur dire « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », donc ce thème de la conférence que vous avez choisi et qui est tiré donc de Jean 16, verset 33. « Prenez courage, j'ai vaincu le monde », pourquoi leur dit-il ça? Parce que au verset 32, juste avant, il dit ceci, donc c'est Jean 6, verset 32, « Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés. » Vous savez, on aime, nous, être dans la communion, de vivre dans la communion fraternelle. On aime, quand on est spirituel, on aime le rassemblement des saints. On aime que les dons puissent s'exprimer les uns envers les autres. Donc, il y a une joie de se rassembler. Mais là, il les prévient. Alors qu'ils ont passé presque trois ans ensemble, ensuite, ils vont peut-être encore continuer de vivre certaines choses, mais il les prévient, vous allez être dispersés. Donc c'est une mauvaise nouvelle. Donc vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Donc il est en train déjà de parler de la tribulation, et juste après, il dit « je vous laisse la paix ». Quand je parle de tribulation, c'est l'arrestation de Jésus, le procès, la croix, etc. Il dit « mais je vous laisse la... » Pardon, ça c'est un autre verset. « Mais je vous ai dit ces choses ». Donc, quand il dit ces choses, c'est le verset que je viens de vous lire, mais aussi ce sont les chapitres 14, 15 et 16. C'est-à-dire que Jésus explique... n'oublions pas que l'évangile de Jean, la moitié de l'évangile, c'est la semaine de la Passion. Donc la moitié de l'évangile de Jean s'étale sur 7 jours à peu près. Et donc Jésus passe beaucoup de temps avec les disciples, il leur enseigne certaines choses. Et puis on sait en Jean 17, ensuite dans le chapitre suivant, qu'il va intercéder auprès de son Père, ce qu'on appelle la prière sacerdotale. Et donc Jésus leur a expliqué plein de choses, mais ça ne va pas suffire à ce qu'ils aient la paix. C'est pas l'information ou toutes ces informations qui vont leur donner la paix. Ce qui va leur donner la paix, c'est en fait la personne de Jésus lui-même. C'est qu'il leur donne sa paix. Il dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous voyez, il ne dit pas « Je vous ai dit toutes ces choses et vous aurez du coup la paix dans ce monde. » Vous saurez comment faire les choses parfaitement, vous serez tellement équipé, un peu comme un bricoleur ou un ouvrier qui a son diplôme et qui sait exactement comment faire les choses. Nous sommes à la fois équipés et en même temps, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Nous n'avons pas toutes les pièces du puzzle. Et donc, nous les découvrons au fur et à mesure. Et puis, nous avons des décisions à prendre également, ce qui peut aussi nous amener ce qu'on appelle sur des chemins de traverse où nous... inconsciemment, à cause de la désobéissance, on contourne le plan de Dieu. Alors, Dieu, dans sa grâce, ensuite, nous remet sur le droit chemin. Néanmoins, nous savons que la vie chrétienne va être parfois chaotique. Mais il dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est-à-dire que la vie chrétienne consiste à servir Dieu, avancer, marcher par la foi. Mais marcher par la foi, c'est avoir confiance dans la personne qui nous a mandatés, qui nous laisse dans ce monde, qui a accompli une œuvre, l'œuvre de la croix, qui nous a promis des choses extraordinaires dans l'éternité, mais en attendant, eh ben nous sommes là, dans ce corps de mort, et c'est pas parce que ce corps est un corps de mort que la vie éternelle n'y a pas accès. Et c'est par notre marche par la foi, par notre communion avec Dieu, que la puissance de Dieu peut se manifester, la sagesse de Dieu peut se manifester, le parfum de Christ peut se manifester, le témoignage du royaume peut se manifester, les attributs de Dieu peuvent se manifester, la plénitude de l'Esprit peut être expérimentée. Et donc toutes ces choses sont à notre disposition, mais elles ne sont pas à notre disposition dans ce monde. Bien au contraire, on le verra, le monde est opposé aux choses de Dieu, mais elles sont à notre disposition spirituellement, c'est-à-dire que nous avons accès à Dieu par l'Esprit. Je donne un verset aussi, alors je parlais de Jean 14, 15 et 16 tout à l'heure, mais en Jean 14, verset 27, par exemple, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, et ne s'alarme point. » Vous voyez, déjà au chapitre 14, il avait déjà le même discours. C'est-à-dire qu'il est bien conscient, Jésus, que les apôtres vont être troublés. Parce que, il va le dire aussi, « Si moi j'ai été persécuté, vous aussi vous serez persécutés. » Et rappelons-nous, alors c'était pas la même tentation, c'était pas la même épreuve, mais en tout cas c'est la même, je dirais, expérience humaine. Jésus-Christ a expérimenté aussi ça. Bien entendu, durant tout son ministère, hein, il y a eu l'opposition, il n'a pas été accueilli les bras grands ouverts, loin de là. Mais le point culminant de cette opposition et de ces tribulations, nous le savons, c'est dans le jardin de Gethsémané, où il va intercéder et il va crier au Père, il va supplier que cette coupe puisse s'éloigner de lui et en même temps accepter la volonté du Père. On sait que physiquement même, il va souffrir énormément. C'est une souffrance extrême lorsque le sang sort de votre peau. Il y a certaines maladies qui provoquent ça. Parfois, le stress peut provoquer ça. C'est dans des cas très rares. Mais en fait, il y a une pression telle, une pression sanguine, que le fait que le sang traverse les peaux, la peau touche les nerfs, ce qui fait que les extrémités nerveuses de tout votre corps sont, je dirais, excitées de douleur à cause de ce sang qui sort de votre peau. Donc c'était une souffrance qu'on n'a pas idée qu'il a traversée à Gethsémané. Et donc il vivait la tribulation. Néanmoins, il avait, l'Épître aux Hébreux nous parle de ça, il avait devant lui cette joie d'accepter ce ministère et d'être ce sacrifice en vue de la joie qu'il allait expérimenter plus tard au travers du salut que nous avons en Jésus-Christ et le fait qu'il a racheté un peuple nombreux pour que nous puissions vivre l'éternité avec lui. Donc c'est ça qui doit nous encourager. Souvent, on en veut à Dieu, on est amer, on questionne Dieu, on ne comprend pas, parce que on s'appuie sur certains versets qui ne sont pas faux en soi, mais qui ne sont peut-être pas mal intégrés, ou on voit dans l'Ancien Testament en particulier, mais même dans le Nouveau, des réponses aux prières, des gens qui sont bénis, des victoires, et donc on s'accroche à ça, et c'est vrai que c'est bien parce que ça peut nous donner une espérance, mais nous oublions d'autres parties des Écritures. Et il y a un équilibre à trouver, de savoir que on n'est pas dupe. Nous savons que le monde s'oppose à Dieu, nous savons que le monde s'oppose à notre vie parce que nous ne faisons plus partie du monde. Et donc, Jésus a dû donner ses avertissements. Et vous savez, il y a deux discours importants à la fin des évangiles en termes d'importance. C'est-à-dire que quand vous quittez quelqu'un, en l'occurrence là, Jésus allait à la croix, il allait mourir. On sait qu'il va ressusciter après, mais il allait mourir. Et quand vous avez terminé une tâche, je pense, je sais pas, à l'Institut biblique, par exemple, où vous avez des gens qui vont bientôt être diplômés, vous faites un discours et vous leur donnez les dernières pensées que vous voulez qu'ils conservent, parce que peut-être vous reverrez plus les étudiants. Et donc, les derniers discours sont toujours importants. Et là, Jésus, dans son dernier discours avant l'œuvre de la croix, eh bien, il communique des vérités essentielles. Et puis, de la même façon, À la résurrection, il va rester 40 jours avec les disciples, mais les derniers discours, Matthieu 28, allez de par le monde, voilà, ce sont les dernières paroles, et tout comme quelqu'un qui va nous quitter et on est pratiquement sûr de plus le revoir, les derniers mots sont très importants. Et donc, dans ces discours là de Jean 14, 15, 16, 17, on voit que Jésus avertit son peuple et il veut les encourager et leur prononcer des paroles de paix et de victoire. C'est drôle parce que d'un côté, il dit, vous aurez des tribulations, vous allez disperser, il va se passer des mauvaises choses, mais il y a trois choses qu'il veut laisser quand même dans leur mémoire, c'est la paix, le courage et la victoire. On le sait, malheureusement, mais il en est de même pour nous, c'est qu'ils ne vont pas vivre ça dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Alors qu'ils ont pourtant été avertis, c'est pour ça qu'ils ont même été avertis de la croix. Jésus les avait prévenus de ce qui allait se passer. Il avait prévenu l'apôtre Pierre qu'il allait le renier. Donc on voit bien que, alors que nous sommes là ensemble, virtuellement, dans une conférence autour de la parole de Dieu, où j'espère vous communique certaines vérités. Vous recevez la parole de Dieu, vous allez être informés, mais l'information ne nous protège pas. C'est la vie éternelle qui va nous protéger. C'est le fait que nous soyons en Christ. Et la parole de Dieu est là pour nous conduire vers cette vie éternelle, pour que nous ayons, alors soit pour le salut, dans un premier temps, mais ensuite pour que nous continuions d'expérimenter cette vie éternelle. Parce que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et comme on sait que le monde est contre nous, on est perdant d'avance en réalité. Donc, le point là qui est important, et je terminerai cette introduction avec ça, c'est que les choses qu'il a communiquées avaient pour but de prévenir, d'avertir ce qui allait se passer dans la vie immortelle, je dirais, dans la vie terrestre, cette vie qui va s'arrêter un jour. Pour nous les chrétiens, c'est la vie mortelle, je l'ai dit, ne s'arrête pas, mais la vie dans ce corps s'arrête. Mais il les aiguille aussi sur cette vie éternelle qu'ils peuvent expérimenter maintenant. Vous savez, être sauvé, on le sait, c'est pas simplement, voilà, je sais où je serai dans l'éternité, en attendant, je me débrouille. Non, le Saint-Esprit nous a été envoyé et nous devons vivre cette communion avec Dieu en respectant sa parole et en étant sensibles à la voix de Dieu qui nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et donc, cette paix nous est proposée par Dieu, et cette paix, elle nous est proposée, il est vrai, alors que notre situation est contradictoire. C'est-à-dire que nous sommes en Christ, et c'est pour ça que c'est en lui que nous pouvons avoir la paix, mais nous sommes dans le monde. Nous ne sommes pas dans Christ et en le monde. Vous allez me dire, quelle est la différence? Le « dans » là doit s'interpréter dans le fait que nous y sommes, nous sommes présents, mais nous ne sommes pas inclus dedans, nous n'y participons pas, il n'y a pas de fusion, d'unité avec ce monde. Il y a comme une distance. On est là, mais il y a une distance. Et nous sommes en Christ, parce que là, pour le coup, il y a comme une fusion avec Christ. Nous sommes unis à lui, nous sommes le corps de Christ. Chacun d'entre nous est membre de la tête, et donc nous sommes en lui. Il y a une vie là qui coule. Et ce que le diable essaye de faire dans le monde, c'est de communiquer lui ses propres pensées, sa propre vie. Il veut diffuser sa vie, et il veut diffuser son caractère, il veut diffuser son combat. Mais nous serons protégés de ce monde si nous acceptons le fait que, en étant dans le monde, nous ne sommes pas en le monde. Et autant que faire se peut, nous essayons de combattre ou de refuser ce que le diable et le monde veulent nous proposer, veulent proposer à la chair. Et c'est pour ça que notre sécurité va être dans la personne même de Dieu, alors que nous allons vivre, j'imagine, des combats spirituels plusieurs fois durant notre existence. Il faut savoir que être chrétien en vie sur cette terre consiste à recevoir une pression spirituelle, que l'on soyons conscients ou pas. À partir du moment où nous sommes régénérés, nous devenons ennemis du diable. Nous l'étions avant, mais nous étions des victimes, si vous voulez. Le diable combat l'humanité pour que les gens le suivent en enfer, mais on n'en est pas conscient. Ensuite, quand on a été arraché aux griffes du diable, nous devenons un ennemi particulier. Ce qui fait que le monde et le diable exercent une pression sur les chrétiens. Alors, on parle souvent de la pression des hommes de Dieu qui avance, plus on veut servir Dieu, plus il y aura de pression. Ça peut être le cas, pas toujours d'ailleurs, mais c'est vrai que ça peut être le cas. Mais en réalité, un chrétien qui est éloigné de la volonté de Dieu, qui est éloigné du corps de Christ, a subi ou subit peut-être encore des pressions. C'est-à-dire qu'il y a une opposition. Vous savez, prenons le cas d'Abraham, par exemple. Abraham a voulu suivre Dieu, alors c'est un contexte différent du nôtre. Le Saint-Esprit ne régénérait pas les croyants à l'époque, mais Abraham, nous connaissons son existence, il y avait des hauts et des bas. Mais quand nous pensons à Lot, c'est pas parce que Lot était à Sodome et Gomorre qu'il ne subissait pas de pression. Il y avait une pression du monde aussi contre lui. La seule chose, c'est que le monde prenait le dessus sur sa vie. Mais on le sait, de la part de l'apôtre Pierre, il se lamentait d'être dans cette situation-là. Et donc, la pression, elle est sur tous les croyants. Et nous allons voir, dans le prochain message, comment garder courage et comment aller de l'avant dans ces circonstances difficiles. Peut-être que nous avons fait des erreurs et on est peut-être plus proche du comportement de Lot. Peut-être qu'on peut être plus proche du comportement d'Abraham. Et dans les deux cas, les croyants ne sont pas du monde, ils ne sont pas en le monde, ils sont dans le monde. Et c'est ça la difficulté, l'équilibre que nous devons gérer. Donc, que Dieu vous bénisse et on se retrouve pour notre prochain message. Merci à vous.